Imaginez un instant qu'on vous demande de concevoir le système de sécurité le plus complexe et avancé au monde.
Ouais.
Un système censé protéger toute une population. Mais dès les plans de base, vous décidez de rendre ce système délibérément aveugle à 50% des menaces.
Ce qui serait complètement absurde.
Bah oui, complètement. Et sourd à 50% des sources d'information. C'est impensable, en fait. Et pourtant...
Pourtant, c'est la réalité.
C'est exactement la réalité opérationnelle quand la police nationale d'un pays ne compte que 0,2% de femmes dans ses rangs.
Ouais, 0,2%, c'est vraiment le chiffre qui frappe.
C'est fou. Donc aujourd'hui, pour notre plongée au cœur de l'actualité, on se penche sur une tentative colossale de corriger un angle mort stratégique de cette ampleur.
Tout à fait.
Bon, décortiquons tout cela. Nous avons sur la table un dossier captivant qui nous vient d'un article tout récent.
Oui, un article très détaillé daté du 30 mars 2026.
Exactement. Publié par Radio Tom Tam Africa et rédigé par la journaliste indépendante et éditorialiste Félicité Amanière Rava Vincent.
C'est ça. Et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre une étape vraiment historique qui vient d'être franchie en République démocratique du Congo.
La RDC, oui. Sous l'impulsion de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka.
Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'ambition d'aller vers une gouvernance plus inclusive dans un secteur traditionnellement très fermé.
Le secteur de la sécurité nationale, c'est pas rien.
Absolument pas. Et on ne parle pas juste d'équité sociale. Hein. Ce n'est pas qu'une question de faire bonne figure.
Non, c'est une question d'efficacité stratégique.
Exactement. Il s'agit de la survie et de la crédibilité de l'État.
Alors, pour bien comprendre la réforme proposée par la Première ministre, il faut d'abord regarder le terrain, en fait.
Ouais, le point de départ.
Parce que sans ce diagnostic de départ, on ne peut pas saisir l'urgence vitale de la situation. Et l'article cite une étude très spécifique.
Une étude menée par le GCFRSS.
Donc le groupe consultatif des femmes pour la réforme du secteur de sécurité.
C'est ça. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle ne se limite pas à Kinshasa.
Ouais, ils sont allés voir ailleurs.
Ils ont étudié Kinshasa, oui, mais aussi des provinces où les dynamiques sécuritaires sont hyper complexes.
Comme l'Ituri, je crois.
L'Ituri, l'Équateur et la Tshopo.
D'accord.
Et les statistiques qu'ils en ressortent sont, elles sont brutales.
Vas-y, donne-nous les chiffres.
Au sein de l'armée, les FRDC, on a seulement 2,13% de femmes parmi les officiers généraux.
2,13%.
Et c'est le haut du panier, hein. Mais alors, dans la police, la PNC...
C'est là que ça fait vraiment mal.
C'est là qu'on tombe à 0,2% des effectifs globaux. L'article utilise même le mot « dérisoire ».
Dérisoire, c'est le mot. Enfin, 0,2%, c'est l'équivalent de mon analogie du début.
C'est ça.
Il suffit d'imaginer une immense entreprise de cybersécurité, quoi.
Ouais.
Une entreprise mondiale, et la moitié des utilisateurs d'Internet n'auraient absolument aucun représentant dans l'équipe qui crée les protections.
Le système serait défaillant par essence.
Bah oui, comment le système pourrait-il être efficace face à des attaques qui cibleraient spécifiquement cette moitié-là?
C'est impossible.
Mais alors, comment un tel déséquilibre a pu perdurer? Enfin, on est en 2026, on a des lois, des constitutions...
C'est là qu'intervient la notion de résistance structurelle.
Ok, explique-nous ça.
En fait, ces institutions n'ont pas juste oublié d'inclure les femmes. C'est que pendant des décennies, toute l'architecture, les critères de recrutement, la culture interne...
Tout a été pensé par des hommes.
Pensé par des hommes, pour des modèles de menaces perçus par des hommes.
Ah ouais.
Donc on a un décalage profond entre les ambitions politiques affichées, genre les beaux discours sur l'égalité, et la réalité statistique.
La machinerie interne qui bloque, quoi.
Voilà. Et c'est pour ça que les données du GCFRSS sont si cruciales. Tant qu'on n'a pas ce 0,2% jeté sur la table, l'institution peut faire l'autruche.
Elle peut dire oui, on y travaille, ça prend du temps.
Exactement. Mais face à 0,2%, tu ne peux plus te cacher. Ça force le débat public.
Ça crée une urgence. Et c'est ce qui nous amène à la réponse de l'État.
Ouais.
Parce que face à un constat aussi écrasant, on ne peut plus se contenter de simples déclarations. Il fallait une action concrète.
Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet avec le forum de Lingwala.
Voilà. L'article nous parle de ce rassemblement stratégique qui s'est clôturé ce fameux lundi 30 mars 2026 à Kinshasa.
Clôturé par la première ministre en personne.
C'est ça. Mais avant de parler du contenu, il y a un détail dans la source qui m'a sauté aux yeux, c'est le lieu.
Le centre judo du commissariat de la PNC à Lingwala.
Mais oui, ils n'ont pas fait ça dans un grand hôtel ou dans un salon ministériel feutré.
Non, ils sont allés au cœur du réacteur.
Dans un centre de judo de la police.
Ouais.
C'est ultra symbolique, non?
Très symbolique. Ça veut dire qu'on ne parle pas de théorie sociologique de loin. On est dans la matrice de la force publique.
C'est clair. Et autour de la table, il y avait du lourd.
Ah oui, le ministère du genre, évidemment, mais aussi la MONUSCO.
Donc l'ONU qui apporte son poids institutionnel.
Exactement. Et des figures historiques de la société civile congolaise, comme Faïda Mwengilwa.
Et leur objectif n'était pas de demander quelques postes d'adjointe pour faire joli.
Non, l'objectif affiché, c'est de briser les plafonds de verre dans les instances de très haut niveau.
On parle de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement.
De la DGM, la Direction générale de migration.
Et même du Conseil national de sécurité.
C'est là que se prennent les vraies décisions.
Absolument. Et Sunak, la première ministre, a prononcé cette phrase qui résume tout. Je cite « Les femmes ne sont pas de simples bénéficiaires de la sécurité, elles en sont des actrices de première ligne. »
Une phrase très forte. Et pour la mettre en œuvre, ils ont défini trois piliers lors de ce forum.
Alors, voyons ces trois piliers. Le premier, c'est la prévention des conflits et l'alerte communautaire.
Ouais.
Le deuxième, la médiation et la reconstruction du tissu social.
Tout à fait.
Et le troisième, le leadership opérationnel dans les postes de commandement.
Voilà l'architecture de la réforme.
Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et je vais faire l'avocat du diable un instant.
Vas-y.
Ces trois rôles, particulièrement la médiation ou l'alerte communautaire, au fond, est-ce que ce n'est pas des choses que les femmes font déjà sur le terrain ?
De manière informelle, tu veux dire ?
Bah oui, dans les villages, dans les quartiers, ce sont souvent elles qui voient qu'un truc cloche, qui apaise les tensions entre voisins.
Bien sûr.
Du coup, la vraie nouveauté, est-ce que ce n'est pas simplement que l'État décide enfin de les payer et de les gratifier pour un boulot qu'elles faisaient déjà gratuitement ?
C'est une excellente question. Et en fait, formaliser l'informel, c'est la définition même d'une véritable réforme de la sécurité.
Ok, comment ça ?
Oui, les femmes ont cette résilience communautaire silencieuse. Mais tant que ça reste informel, ça ne remonte pas à l'AR. Ça ne rentre pas dans le Conseil national de sécurité.
Ah, l'information se perd.
Exactement. En intégrant ces piliers dans la doctrine officielle, l'État transforme cette habitude locale en une stratégie d'État global.
On branche le câble, en gros.
Voilà, on dote ça d'un budget, de canaux sécurisés, et c'est là qu'on en vient à la notion de crédibilité dont parlait la Première ministre.
Parce qu'un État qui ignore 50% de son réseau d'alerte n'est pas crédible.
Une sécurité non inclusive, c'est une sécurité aveugle. C'est fondamentalement non crédible.
Ok, ça a du sens. Mais du coup, comment on passe de la théorie à la pratique ?
C'est toujours là que ça coince.
Bah oui, parce qu'une vision philosophique, même soutenue par la MONUSCO, ça peut vite rester lettre morte sans levier institutionnel.
Surtout face à la bureaucratie, ouais.
Exactement. Alors, comment ils comptent transformer ces trois piliers en réalité administrative ?
Déjà par des engagements au sommet. La source indique que la Première ministre s'est engagée à porter les recommandations directement au Conseil des ministres.
Donc ça ne reste pas bloqué au ministère du genre ?
Non, ça devient une affaire gouvernementale globale. Et les organisations de défense des droits des femmes attendent trois mesures phares très concrètes.
Quelles sont ces mesures ?
La première, c'est la levée des barrières administratives au recrutement.
Ok.
La deuxième, c'est la nomination de femmes compétentes à des postes de décision.
Logique.
Et la troisième, c'est l'institutionnalisation du genre dans les réformes de la défense.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Arrêtons-nous un instant sur cette histoire de levée des barrières administratives.
Ouais, c'est crucial.
Parce que quiconque a déjà travaillé dans une grande administration sait que la bureaucratie, c'est une arme redoutable pour maintenir le statu quo.
Sans avoir l'air de le faire, en plus.
Exactement. Personne ne dit ouvertement « on ne veut pas de femmes », mais on met des règles qui, en pratique, les excluent.
C'est tout à fait ça. Si l'on relie cela à une perspective plus large, les critères de recrutement ou d'avancement ont été pensés par des hommes pour des carrières d'hommes.
Par exemple, exiger 15 ans de service ininterrompu, ce qui pénalise celles qui ont des enfants.
Voilà. C'est ce fameux plafond de verre invisible, mais hyper solide.
Donc il faut démanteler ces règles-là.
Oui. Et c'est pour ça que le mot-clé de la troisième mesure, c'est institutionnaliser.
Pourquoi c'est si important ce mot-là ?
Parce que nommer une femme directrice de la DGM, c'est bien, c'est un signal. Mais les directeurs, ça change.
Oui, un gouvernement tombe, un autre arrive.
Voilà. Alors que si tu institutionnalises, ça veut dire que tu changes les manuels militaires, tu changes les procédures RH de base.
Tu modifies le code source de l'institution.
Exactement. Et l'enjeu ici dépasse largement les frontières de la RDC.
Ah oui, l'article en parle. Le but, c'est de positionner la RDC comme un modèle en Afrique centrale.
Tout à fait. C'est lié à l'agenda international Femmes, Paix et Sécurité.
Donc si la RDC, avec tous les défis sécuritaires immenses qu'elle connaît, parvient à faire cette institutionnalisation ?
Elle devient la vitrine régionale. Elle prouve que c'est possible, même dans des conditions extrêmes.
Et ça mettrait la pression sur les pays voisins, l'imagine ?
Absolument. Ça crée un précédent incontournable en Afrique centrale.
Eh bien, quel chemin parcouru dans cette analyse? On est parti d'un constat chiffré complètement accablant. Hein.
Les fameux 0,2% dans la police.
Ouais. Et de là, on a vu émerger une vraie volonté politique au plus haut niveau de l'État.
Pour redéfinir l'architecture même de la sécurité nationale congolaise.
En passant par l'action déterminante de figures comme Faïda Mwendewa et bien sûr la première ministre Judith Suminwa.
C'est un sujet tellement important.
Ah oui, pour quiconque s'intéresse à la gouvernance, à l'équité ou à la géopolitique africaine, c'est passionnant. L'intégration, on le voit bien, ce n'est pas qu'une statistique.
Non, c'est la redéfinition de l'efficacité de l'État.
Exactement. Et ça m'amène à une réflexion finale, un peu provocatrice peut-être pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
Si une nation modifie en profondeur qui est chargé de la sécurité, est-ce qu'il n'est pas possible que la définition même de ce qu'est une menace ou de ce qu'est la paix évolue drastiquement au cours de la prochaine décennie?
C'est une excellente question.
Parce qu'une sécurité pensée par une plus grande diversité de cerveaux, ça produira peut-être des solutions qu'on ne pouvait même pas imaginer jusqu'ici, non?
C'est fort probable. Quand tu changes les architectes, tu changes la forme du bâtiment.
C'est joliment dit. Eh bien, c'est une question qu'on va laisser en suspens aujourd'hui, histoire de nourrir un peu la réflexion de notre audience.
Ouais, il y a de quoi réfléchir.
Absolument. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée avec nous et à très vite pour une prochaine analyse.